nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Wow, 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 wow. Hey, hey.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107 FM, nous sommes au joie le mercredi 27 janvier, il est 8h30, et avec moi Corto, salut Corto.
Eh ben salut Ben, salut Marie-Hélène.
Bonjour.
Eh ben voilà, il est parti.
Eh ben voilà.
Lundi, au programme de cette matinale, vous l'avez entendu, nous sommes avec Marie-Hélène, bonjour.
Bonjour à tous les deux et bonjour à tous les auditeurs Radio Bartas.
Quel plaisir de te recevoir. Alors, on va parler de l'association qui vient de se créer, qui s'appelle Savoir en Chantier. Il y a plein de bonnes nouvelles, il y a plein de belles choses qui sont en train de se préparer avec cette asso. On en parle dans un instant. Matinale un peu réduite exceptionnellement. Aujourd'hui, il y aura quand même de la musique, dont un morceau que tu as choisi Marie-Hélène. Et quel morceau? On en parle. Et on commence Corto, si tu veux bien, tranquillement parler d'Ito, c'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dévoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
Allez, je vais vous mettre de bonne humeur, ou pas, ça dépend. La crise liée au Covid-19 a fortement augmenté les inégalités. C'est le principal enseignement du rapport de l'organisation non gouvernementale Oxfam qui a été publié ce lundi 25 janvier. Alors, traditionnellement, il est rendu public à l'occasion du début du forum de Davos, qui cette année a été transformé en petite causerie en ligne. Ce rapport dresse en tout cas un constat inquiétant de l'état de la répartition des richesses dans le monde et en France. Alors, au niveau mondial, la divergence est complète. Alors que la fortune des ultra-riches, constituée en majorité de produits financiers et soutenue indirectement par les actions des banques centrales sur les marchés, les plus fragiles et les plus précaires ont eux perdu leur emploi et parfois leur possibilité de travailler et donc de gagner de quoi vivre. Oxfam souligne ainsi qu'il n'a fallu que 9 mois en 2020 aux 1000 personnes les plus riches pour retrouver leur fortune, leur niveau de fortune d'avant-crise. Alors que après le choc de 2008, hein, vous vous souvenez, c'est 5 ans qu'il avait fallu à l'époque. Entre le 18 mars et le 31 décembre, donc, leur fortune cumulée a augmenté, tenez-vous bien, de 3900 milliards de dollars. Hein. C'est pas une paille, ça, quand même. Et c'est soit près de 2 fois le PIB français. Alors, les seules 10 personnes les plus riches du monde ont vu, sur la même période, leur fortune, calculée sur la base des valeurs de leur patrimoine financier essentiellement, croître de 540 milliards de dollars. Non, auditrices, auditeurs, ne vous mettez pas en PLS, même si ça pique grave. À l'inverse, l'organisation rappelle que l'économie mondiale a connu une des plus graves crises de son histoire avec une chute du PIB mondial supérieure à 5%, ce qui a entraîné évidemment un appauvrissement d'une grande partie de la population. Les estimations estime que le nombre de personnes tombées en 2020 sous le seuil officiel de pauvreté, soit 5,5 dollars par jour, ça fait environ 4,50 euros, est d'environ 500 millions de personnes. Oxfam rappelle que le virus n'est pas le seul à blâmer cette évolution. Il n'est pas venu frapper un monde égalitaire, mais au contraire, un système économique qui est fondé sur l'exploitation et les inégalités. Le capitalisme financiarisé, le recul de la fiscalité redistributive, les affaiblissements du monde du travail sont autant d'éléments qui ont contribué à creuser les inégalités avant même l'émergence de cette pandémie. Ah, cette dernière n'a juste eu qu'une fonction accélératrice. Rien d'étonnant, en fait, il abonde d'où le virus. Marie-Hélène, c'est révoltant.
Oui, ben, c'est malheureusement comme d'habitude, mais moi, ça me dit juste qu'il faut continuer et que la richesse, elle est peut-être ailleurs, d'ailleurs.
Ouais, j'avoue. Allez, dans un instant, on parle avec toi de richesse, justement, voilà, de savoir richesse. En chantier. On écoute d'abord les gens qui doutent de la grande Anne Sylvestre et on en parle tout de suite après. C'est parti.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui panique, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Les gens qui doutent de la grande Anne Sylvestre de retour en plateau avec Marie-Hélène, c'est toi qui as choisi cette chanson et tu voulais en dire quelques mots.
Oh ben, je sais pas si on peut dire grand chose après Anne Sylvestre, mais c'est très beau. Et puis voilà, Anne Sylvestre est partie, voilà, comme on part quand on est vieux, et c'était quand même un grand, enfin c'est une grande personne, voilà. Et puis voilà, pour moi, les gens qui doutent, c'est ça la richesse du monde aussi, quoi, voilà. On parlait de richesse tout à l'heure, et ben voilà, je crois qu'elle est aussi là, quoi.
T'as eu la chance de la voir en concert, en plus.
Ouais, je l'avais vue à Alès il y a 2 ans, je crois qu'elle avait 84 ans, c'était magique, et j'étais contente parce que c'est la première et seule fois que je l'ai vue, donc j'ai voulu à tout prix y aller. Voilà, donc, oui, puis cette chanson, je sais pas, particulièrement, quoi, parce que elle me dit beaucoup de choses, quoi.
Auditeurs, auditrices, allez vous plonger dans la discographie d'Anne Sylvestre. Ouais. Vous allez pas le regretter. L'association Savoir en Chantier, ici à Florac. Alors, Marie-Hélène, quand est née cette asso et pourquoi?
Alors, en effet, une nouvelle association à Florac, encore une, mais bon.
Ça fait du bien.
Dans ces périodes un peu bizarres, là, qu'on vit, c'est pas rien de créer une nouvelle association à Florac. Donc, elle a été créée au mois de décembre. Là, on a pu, pendant cette période de confinement, grâce à la mairie, je le dis quand même, avoir une salle pour pouvoir faire notre assemblée constituante. Et donc, cette association Savoir en Chantier, en fait, elle est née suite aux réflexions qui se sont faites autour de la création d'une université rurale des Cévennes. Peut-être que vous en avez entendu parler, au mois de décembre 2019, il y avait eu un séminaire ici de 2 jours à Florac, au tribunal. Autour de ce projet d'université rurale des Cévennes, donc qui est large au niveau du territoire, bien entendu. Et l'idée de cette université rurale des Cévennes, c'était de s'appuyer sur des groupes locaux. Alors, il y a des endroits où ça peut s'appuyer sur des groupes existants. Et nous, à Florac, on a décidé de créer une nouvelle association spécifique. Donc, cette association, elle est née un peu difficilement, il faut dire, puisqu'on s'est réunis d'abord au mois de janvier. Et puis, on a commencé à faire des choses. Et puis, on a été bloqués par le confinement. Et donc, voilà, c'est un peu on a recommencé en septembre. Et puis là, heureusement. Et puis, reconfinement. Alors là, on s'est dit, c'est pas possible.
Bon, on va pas y échapper, voilà.
Mais non, voilà. Mais c'est pas grave. De toute façon, nous, on continue. Et on s'est dit que, de toute façon, voilà, il fallait quand même continuer encore plus dans ces moments-là. Alors, peut-être que je peux dire 2 mots de quoi ça cause.
Avec plaisir.
Alors, Savoir, ça écrit Savoir avec un S d'abord. Et puis, en chantier. Alors, c'est une association qui se donne pour objectif de transmettre, de partager, d'échanger, de construire, pourquoi pas, d'approfondir des savoirs. Et on entend le mot savoir au sens très 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 large, qui inclut des savoirs théoriques, des savoirs pratiques, qu'on appelle les savoir-faire, qui inclut des savoirs acquis par l'école, par l'université, et des savoirs également d'expérience. et qui inclut bien entendu des savoirs que nous avons entre nous, parce qu'on sait beaucoup de choses finalement quand on se réunit, ou du moins sur le territoire, mais également, bien sûr, sans exclure le fait de faire venir des gens d'ailleurs ou d'aller voir des gens ailleurs. Voilà, tout ça, ça a pour objectif de s'outiller pour agir. Et ça, c'est ce qui est important de cette association. Nous, on voudrait que les gens puissent, les gens, individus, associations, collectivités, collectifs, enfin n'importe qui, puissent, grâce à cette association, acquérir un certain nombre de connaissances, de savoirs, etc., qui puissent ensuite les leur donner de la puissance d'agir là où ils sont. Voilà.
Avec plusieurs axes de réflexion, hein, puisque vous parlez de jardin, d'eau, d'alimentation, d'agriculture, enfin c'est vraiment très très large. Comment vous les choisissez, entre guillemets, ces axes de réflexion ?
Alors, ces axes ont été choisis par les personnes qui sont venues aux diverses réunions, puisqu'on a eu quand même beaucoup de réunions pour préparer ça, qui étaient ouvertes, bien entendu. On a eu jusqu'à une vingtaine de personnes dans les réunions. On a aujourd'hui une 50 à 60 personnes sur notre fichier de personnes sympathisantes ou intéressées. Et donc, ce sont les gens qui ont donné des idées comme ça. Souvent des personnes qui avaient vraiment envie. Enfin, l'idée de, quand on donne une idée à savoir un chantier, l'idée c'est de la mettre en place, en fait. Alors, éventuellement de s'appuyer avec d'autres, de créer des groupes, mais c'est de la mettre en place. Donc, c'est extrêmement varié, en effet. On va voir, et donc l'idée c'est que ces groupes qui se constituent autour de ces thèmes puissent se regrouper, commencer à travailler, etc., et puis puissent proposer alors soit une visite quelque part, soit une conférence, faire venir quelqu'un, une projection d'un film, etc. Voilà, qu'on puisse proposer des choses et qu'on travaille aussi ensemble. Voilà.
Toi, tu t'occupes spécifiquement du travail, du revenu d'existence, d'économie, de monnaie locale. Marianne, oui. Laïga, la monnaie locale en création en Cévennes, tu crois que ça va être possible ?
Je ne sais pas. Enfin, nous, voilà. Et c'est intéressant que tu parles de ça parce que justement, nous, on ne veut pas se situer dans l'action. Volontairement, on s'est dit qu'on allait se situer dans l'échange de savoir et qu'on allait, par exemple, puisqu'il y a un groupe des gens qui travaillent, qui réfléchissent aujourd'hui à la mise en place d'une monnaie locale. Nous, ce qu'on voudrait peut-être, si on veut parler de ça plus spécifiquement, apporter des éléments là-dessus, c'est-à-dire pourquoi pas faire venir quelqu'un qui en a déjà mis en place ailleurs, ou des gens qui ont travaillé là-dessus pour avoir des exemples divers, de choses qui ont marché ou pas marché, ou pourquoi pas aller voir quelqu'un quelque part comment ça fonctionne. Voilà, c'est plutôt voilà donner ces éléments-là pour que les personnes après qui veulent mettre en place puissent mettre en place.
C'est en fait quelque part on pourrait appeler ça, c'est une agora en fait, ça va en chantier. C'est philosophique.
Ouais, si, je sais pas si c'est philosophique, non, mais c'est donner des éléments de, pour comprendre, en fait. On a mis dans un même groupe, hein, le travail, le revenu d'existence, la monnaie, l'économie, parce que c'est très large, mais en même temps, on sent bien qu'il y a des recoupements. Et par exemple, sur la question du travail, amener aux personnes différents éléments, différents avis aussi. Par exemple, sur le revenu d'existence, il y a des avis extrêmement divers. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse potentiellement faire venir des personnes, peut-être des universitaires qui ont travaillé là-dessus, mais également travailler avec partie d'expérience. C'est toujours, en fait, je crois que le point important, c'est vraiment de pas couper les savoirs théoriques, savoirs pratiques, savoirs d'expérience, savoirs théoriques. C'est vraiment cette idée de relier tout ça et te donner des éléments aux personnes qui, dans une entreprise ou dans une collectivité, voudraient mettre en place quelque chose de ce genre. Voilà.
Et grande nouvelle, une nouvelle excellente pour vous. Ça y est, vous avez un local.
Oui, alors ça y est, on l'a pas tout à fait. On a la promesse et la possibilité, en effet, d'avoir un local, ce qui est quand même extrêmement important, parce qu'il y a une chose que j'ai pas dit parmi les actions, une action importante de Savoir en Chantier, au-delà de tous ces ateliers, c'est de constituer un fonds documentaire, c'est-à-dire avec des livres que l'on va pouvoir prêter. Et on veut faire un fonds documentaire plus spécifiquement orienté vers l'écologie sociale et politique. Ça peut aussi, il peut y avoir également sur tous les aspects de la démocratie. Voilà, il y aura pas mal de choses. On est en train de mieux définir un petit peu ce fonds documentaire et de le mettre en place. Et donc, bien entendu, avoir un lieu pour ça, c'était fondamental parce que Bon, tout en ligne, moi, j'y crois pas trop, puis c'est pas trop mon truc non plus, mais c'est pas trop notre truc à aucun, même si ça sera en ligne également, mais c'était important de pouvoir avoir un lieu pour échanger des livres, et puis pouvoir en parler également, puisqu'autour de ce fonds documentaire, il y aura bien sûr des ateliers lecture, des ateliers, etc. Et donc, oui, voilà, donc on a la promesse d'avoir un local qu'on partagerait avec l'association de la Maison Commune, qui, elle, s'occuperait davantage de la partie café associatif et puis convivialité, etc., comme c'est son habitude. Et donc, savoir en chantier amènerait là-dessus les aspects plus de savoir ou d'activité, je ne sais pas comment on peut le dire, sachant que dans ce lieu, il pourrait y avoir à la fois, comme j'ai dit, des conférences, des projections, mais également des ateliers de savoir-faire autour de l'artisanat, etc. Voilà. Et donc, ça me permet, alors comme c'est tout récent, je pensais pas vous dire ce scoop aujourd'hui, mais puisque c'est tout récent, je peux vous le dire. Et bien sûr, on va faire un appel, en fait, auprès de toutes les personnes intéressés par ce projet, qui souhaitent le soutenir, tout simplement, adhérente ou pas, mais qui, voilà, sous forme d'un petit virement mensuel, en fait. Nous, on préférerait que ce soit comme ça. Bon, on peut aussi faire des dons, bien sûr, mais d'un virement mensuel, alors qu'il peut aller de 5 euros à ce qu'on veut, d'ailleurs. Je vais pas mettre de maximum, mais enfin, bon, je veux dire, même à partir de 5 euros, et c'est pas grand-chose, 5 euros pour une personne par mois, mais ça pourrait vraiment nous aider à payer le loyer, et donc à assurer ce local, quoi. Voilà.
Et je mets votre adresse mail si jamais les auditeurs et les auditrices sont intéressés. Dans un instant, sur notre site, c'est savoirenchantier@sud-ouest.org. Tout simple. Je vais revenir à ce local. Du coup, c'est aussi en cette période un peu étonnante, très bizarre, l'idée aussi de créer du lien social et du partage.
Oui, je crois qu'on en a vraiment besoin en ce moment, vraiment, vraiment. J'allais dire même à Florac. Alors oui, je dis même à Florac parce que des fois, on se sent peut-être un petit peu moins sous pression qu'ailleurs, mais quand même, on sent vraiment la pression monter aujourd'hui. La fermeture des cafés, dont je souhaite d'ailleurs la réouverture la plus prochaine, la fermeture des cafés de tous les lieux. Enfin, je veux dire, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est important, vraiment important. On vit pas que de on se nourrit, c'est important, bien sûr, c'est vital, on est logé, c'est bien, mais en fait on a aussi besoin d'autre chose. Donc oui, je crois que c'est d'autant plus important de connaître des lieux comme ça pour se regrouper. Alors bien sûr, on aura peut-être des contraintes, certainement, d'ailleurs, nous aussi. Mais bon, on va essayer pas forcément de passer outre, on peut pas toujours, mais enfin, en tous les cas, de continuer. Surtout pas de baisser les bras, quoi.
Alors, beaucoup de gens le connaissent, hein, on va pas se le cacher, même ici, à Radio Bartas. Justement, on connaît ton engagement. Comment quel regard tu portes sur la situation actuelle?
Ah, je m'attendais pas à cette question. Non, je suis inquiète. Je suis inquiète de deux choses, principalement. Je suis inquiète des dérives sécuritaires, de façon générale, liées à cette crise sanitaire, et également de ce que le gouvernement français, mais également certainement d'autres ailleurs, profitent de cette crise sanitaire pour encore en rajouter. Donc je suis inquiète de ça, parce que même si ce sont des lois quelquefois qui sont prises dans des cadres d'exception, et bien on sait très bien qu'il reste toujours quelque chose après. Mais il y a une autre chose qui m'inquiète peut-être encore plus, au moins autant, ce sont les habitudes qu'on est en train de prendre. Parce que il y a la soumission, les habitudes c'est terrible, quoi. Hier, je regardais les enfants de l'école primaire qui venaient de je ne sais où, ils se promenaient dans la rue, là, avec tous leurs masques. Je suis allée voir les instituts, je leur ai dit, mais dans la rue, vous pouvez leur enlever leurs masques. On me dit, non. Alors là, je me dis, mais ces enfants, comment, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ces habitudes qu'on s'est pris de plus se faire la bise, de plus s'approcher, la distanciation sociale, je trouve ça, mais rien que le mot, Orwell aurait pas pu imaginer mieux, quoi. Je sais même pas voilà. Et voilà. Et moi, j'ai un peu peur de ça. Les habitudes également, de rester chez soi. J'ai écrit un texte, là, je déborde un petit peu, mais j'ai écrit un texte qui va apparaître dans l'antidote qui sort demain, là. C'est un petit texte de fiction, mais c'est ça, quoi, là, ces habitudes de rester dedans, d'être enfermé, et finalement, d'avoir peur d'avoir peur les uns des autres. Quoi. Moi, ça, c'est ça qui me fait vraiment, vraiment peur. Voilà.
C'est fou parce que t'as anticipé justement la toute dernière question. Je te demandais de quoi Antidote allait parler cette semaine. C'est vrai qu'on a, on a une capacité de résilience qui est incroyable.
C'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Et ça fait peur.
Ça me fait très peur, notamment chez les plus jeunes. Parce que je sens bien, alors bien sûr, il y a toujours des personnes individuellement qui elles résistent, qui sont en, mais il y a quand même une capacité énorme à baisser les bras, à baisser la tête, à baisser les yeux, quoi. Enfin voilà.
Auditeurs, auditrices, vous les entendez peut-être, ce sont nos amis ouvriers qui travaillent juste en bas de la radio. Bah, c'est génial, le partage, c'est ça aussi. Hein. Tout à fait autre chose, Marie-Hélène, on a vu un bel élan de solidarité samedi dernier pour soutenir Ali et la famille Caldani, ça fait du bien.
Ah ouais, un chaud au cœur. Hein.
Et j'ai l'impression que c'est très... alors, je sais pas, Flora quoi, mais en tout cas, l'Auxerrien.
Sévenol.
Sévenol, peut-être.
Non, je ne sais pas. Je sais pas, j'ose espérer que c'est partout pareil. Mais il y a quelque chose quand même de particulier, c'est qu'ici, bien sûr, on soutient ces personnes parce que on considère qu'il faut accueillir les gens, etc. Mais on les soutient parce qu'on les connaît, parce que ce sont nos voisins, parce que ce sont des gens qu'on croise dans la rue. Enfin, et ça, je crois que on se rend... Moi, je n'en veux pas aux personnes qui ne veulent pas accueillir les étrangers parce qu'ils les connaissent pas, parce qu'ils voient pas qui c'est, ou alors c'est toujours des personnes étranges, justement, les étranges, les étrangers. Oui. Ben, nous, ces personnes-là, elles sont dans Florac. Et donc, je crois que, voilà. Après, oui, ça fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur. Comme on fait chaud au cœur, d'ailleurs, toutes les manifestations précédentes contre les lois de sécurité, etc. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir se retrouver là et d'être ensemble, quoi.
J'ai reçu d'ailleurs un mail auditeur, auditrice, puisque la famille Caldani, pardon, qui ne peut plus travailler, va galérer avec son logement, qui est beaucoup trop cher, en fait. Donc, il recherche un logement moins cher dans Florac. Voilà, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous contacter, contact@radiobartas.fr. Pour revenir à Savoir en Chantier, est-ce que l'université rurale va revenir?
Eh bien, je n'ai pas vraiment de nouvelles des autres groupes. C'est vrai, enfin... Je sais qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait ailleurs. Ben, c'est vrai que les conditions n'étaient pas très...
C'est sûr.
Il fallait quand même un certain courage pour faire tout ça cette année. Voilà, donc j'espère. J'espère parce que nous, l'intérêt de l'Université rurale des Cévennes, au-delà de Savoir en Chantier, c'était justement un partage plus large. C'était justement de faire des échanges, c'était de permettre justement entre les différents secteurs des Cévennes aussi de communiquer, d'avoir des choses en commun, voilà. Donc je lance un appel à tous mes collègues des autres coins de Lozère, des Cévennes, pardon, voilà, qui veulent lancer des groupes de l'Université rurale des Cévennes, voilà, il n'y a pas de souci. En fait, l'idée de faire des groupes locaux, c'est parce que l'idée, c'est pas que les gens se promènent tout le temps en voiture, dans tout droite à gauche, etc., qu'on fasse des choses de proximité. Mais quand même, ce serait bien qu'on puisse échanger entre nous. Voilà.
Le conseil d'un livre que tu donnerais aux auditeurs et auditrices.
Ah bon, on va revenir du coup un petit peu à la situation actuelle. Un livre vraiment qui m'a beaucoup beaucoup marqué, qui s'appelle Corpus Delicti, et qui est de Julie Zé, qui a été écrit en 2009. Alors pour les auditeurs de Radio Bartas qui écouteraient les émissions d'Antidote, je sais que j'en ai parlé dans une des premières au mois d'octobre, je pense. En fait, c'est un livre que j'avais lu un petit passage, une citation de ce livre dans un essai. Je l'avais annoté, je m'étais dit, tiens, c'est intéressant. Puis c'était tombé dans l'oubli. Et pendant le confinement, j'ai relu cet essai, j'ai relu cet extrait. Et je me suis dit, il faut que j'achète ce livre. Dès que les librairies ont ouvert, je l'ai racheté. Et là, c'est incroyable. Alors, en fait, c'est un roman d'anticipation. Et ça parle, grosso modo, on va dire, d'une forme de dictature gentille, très douce, dictature sanitaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça commence vraiment par la description c'est ça qui m'a fait un peu aussi réagir. Ça commence par la description d'un pays très écolo, très vert, etc. Voilà, où tout est très propre. Ah, ça c'est propre. Ah, ça c'est propre sur soi, il y a pas de souci. Voilà. Et c'est ça. Et du coup, voilà, je le conseille vraiment. C'est un petit livre qui coûte pas cher, qui est chez Babel et qui sera dans notre four documentaire aussi.
Corpus Delicti de Julie Zé. Voilà. Donc en tout cas, c'est samedi à 9h, une semaine sur deux, en alternance avec le lundi à 17h. Antidote, auditeur, auditrice écoutez, ça vaut vraiment le coup. Et si vous voulez en savoir plus sur l'assaut Savoir en Chantier, n'hésitez pas à les contacter, Savoir en Chantier tout attaché, Savoir au pluriel, parce que c'est important, @sud-ouest.org. Je mets de toute façon votre adresse mail sur le site. Merci Marie-Hélène.
Eh bien merci à vous, merci à Radio Barthes.
D'être venu nous partager cet excellent savoir, ces excellents savoirs. Voilà, c'est la fin de cette matinale, un peu raccourcie aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous suivre. Merci Corto.
Ce fut un plaisir.
Merci Corto.
On se quitte avec Pamplamouse qui reprennent Django Reinhardt. J'ai découvert cette version. Alors le chant, les paroles vous étonneront peut-être ou pas. Voilà. En tout cas, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien. Ciao.
Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de moi chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Alors chant est sourd. Je perds la raison à chercher tes bras brûlant de passion. Viens embrasse-moi de tes grands yeux noirs. L'étrange lumière a nimbé le soir de tous les mystères. Cette chanson, oh, chichéonier.